Ce matin, je voudrais justement vous parler de la parole de Dieu, de la Bible. Mais avant ça, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le 10 novembre. Demain, le 11, évidemment, le jour de l'armistice. Mais je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai écrit sur la page des chrétiens amis d'Israël, sur Facebook, dont je suis responsable, enfin un des administrateurs en tout cas, et c'est le fait que il y a 81 ans, pendant la nuit donc du 9 au 10 novembre 1938, c'était le début des agressions contre les Juifs en Autriche et en Allemagne, et il y a des milliers de magasins juifs qui ont été saccagés. Et on a brisé les vitrines de verre. Et il y avait tellement de verre dans les rues qu'on appelait ça la Kristallnacht, la nuit de cristal. Et ce soir-là également, il y a 200 synagogues qui ont été brûlées, complètement anéanties. Il y a une centaine de juifs qui ont été tués. Et 30 000 d'entre eux ont été envoyés dans des camps de concentration. Et j'étais content de voir hier soir aux nouvelles que Angela Merkel, la conseillère de l'Allemagne, a mentionné cela en disant qu'on ne doit jamais oublier ce genre de situation. Ce qui est aussi important pour nous en tant que chrétiens, c'est de réaliser que le 10 novembre, c'est le jour de la naissance de Martin Luther. Et que donc, c'est un jour férié en Allemagne, le 10 novembre 1938. Et Martin Luther, comme on le sait, était quelqu'un qui a écrit des choses épouvantables sur le peuple juif, notamment dans un livre qui s'intitule « Contre les Juifs et leurs mensonges », qu'il a écrit en 1543, et dans lequel il dit « il faudrait les expulser, il faut brûler leur synagogue, etc. » Et on voit que malheureusement, c'est ce qu'on a fait pratiquement 450 ans après qu'il ait écrit ces choses. Et l'Allemagne, à l'époque, c'était un pays luthérien, donc qui était en grande majorité protestant avec l'Église luthérienne. Donc, je dis tout ça pour vous faire comprendre que malheureusement, ce n'est pas parce qu'on est protestant ou luthérien ou évangélique que ça veut dire forcément qu'on agit toujours comme il faut, ou qu'on a des bonnes pensées. Parce que malheureusement, souvent nos pensées ne sont pas ses pensées, et nos voix ne sont pas ses voix. Et donc il faut qu'on apprenne à justement nous remettre au diapason de Dieu, et connaître ses pensées, connaître ses voix, connaître ce qu'il veut nous enseigner. Et justement pour cela, nous n'avons rien d'autre de mieux que ce livre. La Bible. Le mot « Bible » déjà veut dire « le livre » en fait. Et de ce mot-là, on a aussi le mot « bibliothèque » qui parle donc d'un endroit où on conserve des livres. Donc c'est le livre par excellence. On dit que la Bible est le livre le plus vendu au monde. C'est le best-seller à travers tous les temps. Et qu'elle a été traduite dans plus de 670 langues. Il existe des centaines de versions dans différentes langues. Et rien qu'en français, on en compte au moins une bonne vingtaine. Alors pourquoi est-ce que je dirais que la Bible est un livre « fermé » entre guillemets? Pourquoi serait-il fermé? Il est certain que de nos jours, bien que la plupart des chrétiens possèdent au moins une Bible, si pas deux ou trois, finalement, malheureusement, ils ne la lisent pas ou très rarement. Pourquoi? J'ai réfléchi à la question et je me suis dit, il y a en tout cas trois raisons. Première raison, ils ont peur d'une parole qui pourrait sortir de la bouche de Dieu. Vous savez, on a parfois cette notion de Dieu comme le Dieu vengeur, violent, qui veut nous punir, etc. Et on voit cela notamment dans Exode chapitre 20 et au verset 19. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, Sinon, nous mourrons. Et on retrouve un peu cette notion aussi dans le catholicisme, où seuls les prêtres avaient le droit de lire la Bible jusqu'à un certain temps. Sans doute pour mieux contrôler les personnes aussi, bien sûr, et leur imposer une doctrine spécifique qui n'était pas toujours conforme à la parole de Dieu. Certaines personnes se comportent de la même façon. Elles préfèrent que ce soit le pasteur ou un des anciens ou quelqu'un d'autre qui lise quelques passages de la Bible, car elles craignent que Dieu ne leur dise des choses qu'elles ne veulent pas entendre. Deuxième raison, nous vivons dans une société où tout fonctionne par l'intermédiaire de l'électronique aujourd'hui. Les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, etc. Et à propos des tablettes, ce ne sont pas celles que Moïse a reçues sur le mont Sinaï, je vous le dis tout de suite. Et donc, cette dépendance à tous ces gadgets, comme les appelle ma femme, à tous ces gadgets, fait en sorte que peu de gens prennent encore un livre en main. On voit qu'il y a de moins en moins de librairies, d'endroits où on vend des livres et que les gens lisent de moins en moins aussi. Et on le voit parce que quand vous regardez sur Internet la façon dont les gens écrivent, c'est devenu absolument lamentable, pour ne pas dire exécrable. Plein de fautes d'orthographe et de grammaire, on massacre le français, malheureusement. Ce n'est pas une question de snobisme, mais c'est une question de respecter notre langue et d'essayer de faire en sorte qu'elle puisse être transmise aussi aux plus jeunes. Donc, très peu de gens prennent encore un livre en main, et qu'il s'agisse de la Bible ou même d'un autre livre. Il est vrai que la Bible est un livre assez volumineux. Regardez la mienne, et encore, ce n'est pas encore trop gros, il y en a des plus grosses que ça. Et donc, pas commode à transporter. Mais vous pouvez quand même la lire sur une version plus petite ou sur votre smartphone, puisque autant en profiter, c'est ce que je fais le matin quand je me rends au travail dans le train, je lis ma Bible sur mon smartphone. Troisième raison, pourquoi est-ce qu'on ne lit plus la Bible comme auparavant? Parce que certains chrétiens estiment que la Bible est un livre ennuyeux ou difficile à comprendre, et donc il faut le lire à toute petite dose, comme un médicament amer et désagréable qu'on ne prend que s'il le faut absolument. Et pourtant, si vous faites l'effort de réfléchir à ce que vous lisez, vous verrez que non seulement ce n'est pas si difficile que ça, et que les commandements de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 19, sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, et ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. D'ailleurs, saviez-vous que le psaume qui parle justement des commandements de Dieu, c'est le psaume 119, qui possède pas moins de 176 versets. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Et c'est le passage, le chapitre qui est justement dédié à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que ce chapitre est là et qui nous rappelle l'importance de la parole de Dieu. Les Juifs, en fait, chaque année, célèbrent une fête qui s'appelle Simchat Torah, ce qui veut dire la joie de la Torah, la joie de la parole. Et pendant cette fête, ils vont prendre les rouleaux de la Torah qui se trouvent dans une armoire derrière le pupitre, en général. Ils ont les rouleaux de la Torah là, et les prennent dans leurs bras avec amour, et ils dansent avec dans la synagogue, pour célébrer le Seigneur et lui dire « Merci Seigneur pour ta parole qui nous instruit, qui nous éclaire, qui nous dirige. » J'aimerais voir ce genre de célébration dans nos églises, où on prendrait sa Bible dans ses bras, on la mettrait sur son cœur et on danserait avec en disant « Seigneur, merci pour cette parole. » Quelle joie de l'avoir, quel privilège de l'avoir. Vous savez qu'il y a des pays où il est interdit d'avoir la parole de Dieu. Et ils souffrent pour avoir ne fût-ce que deux versets. Et ils le mémorisent en général, ou ils le mettent sur un petit bout de papier et ils se le transmettent comme ça de l'un à l'autre. On ne peut pas réaliser le privilège que nous avons d'avoir cette parole tout entière à notre disposition. Certaines personnes pensent aujourd'hui que ce qui est le plus important, ce n'est pas de lire ou d'étudier la Bible, mais c'est d'entendre des témoignages qui racontent ce que les gens ont vécu, leurs expériences. Et alors là, on tombe parfois dans le spectaculaire, dans les émotions qui sont souvent très passagères. Vous connaissez ce proverbe qui dit « gens qui rient et gens qui pleurent ». Les émotions sont passagères, elles ne sont pas fiables. La parole de Dieu demeure éternellement. Nos émotions, aussi belles peuvent-elles être, ne sont que passagères. Aujourd'hui, vos émotions vous feront peut-être rire, mais demain, elles vous feront peut-être pleurer. On ne peut pas se baser sur des expériences ou des émotions pour avoir une marche avec Dieu stable. On ne peut pas se baser sur ce que nous avons vécu ou ce qu'une autre personne a vécu pour dire « voilà comment Dieu va agir dans ma vie ». Absolument pas. Ce que Dieu a fait pour quelqu'un n'est pas forcément ce qu'il va faire pour moi, et vice-versa. Notre vie doit être basée sur la parole de Dieu et non sur des expériences ou des émotions. Bien que nous ayons, bien sûr, des expériences avec Dieu, et j'espère que c'est votre cas, que vous l'avez vu à l'œuvre dans votre vie, que vous savez qu'il est vivant et qu'il s'intéresse à vous, et qu'il pourvoira à vos besoins, qu'il vous délivrera, etc. Bien sûr. Mais notre fondement, ce n'est pas notre expérience, mais c'est sa parole. Évidemment, cela demande un certain effort, car pour pouvoir apprendre et comprendre la Bible, il faut être prêt à la lire, à l'étudier et à la méditer. La lire, bon, on comprend tout ce que ça veut dire, lire. L'étudier, hein, quand on doit étudier un chapitre d'un livre de Victor Hugo, par exemple, pour l'école, bon, ben, c'est déjà moins facile, parce que ça veut dire qu'on doit vraiment réfléchir. Qu'est-ce que ce chapitre dit ? Et puis, la méditer, méditer, ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire pour moi, pratiquement, concrètement ? Qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement ? Et voilà comment nous devrions lire la parole de Dieu, pas simplement la lire, mais l'étudier et la méditer. Connaître la parole est la seule façon que nous avons pour pouvoir apporter des arguments valables lors de discussions. Et lorsque nous enseignons dans l'Église aussi, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 et verset 16, vous connaissez ce passage sans doute, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Et non seulement elle est utile pour ce but, mais elle est aussi, comme il est écrit dans Hébreux, chapitre 4 et verset 12, une arme puissante. Il est écrit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Et elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit. L'âme, c'est ma personnalité, c'est qui je suis, c'est mon identité. Mais mon esprit, c'est ce que Dieu m'a donné et qu'un jour, il reprendra. Et mon esprit vivra pour toujours. Mais mon âme sera enterrée, restera dans la terre avec moi. Donc, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que la parole de Dieu fait. Si on ose la lire comme un miroir, on va voir qu'on est souvent illustré, mentionné dans cette Bible. Alors, à combien plus forte raison nous devrions aussi la connaître pour pouvoir faire face aux tentations ? Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable, souvenez-vous, il a été emmené dans le désert pour y être tenté, c'est ce que nous dit l'évangile de Luc. Il n'a pas répondu à Satan, « Écoute, moi je suis le roi. » On en a parlé ce matin, on a célébré le roi. Mais il n'a pas dit ça. Il a répondu chaque fois, « Il est écrit !» Et il a cité un verset de la parole de Dieu. Il n'a jamais revendiqué ses droits ou autre chose, mais il a cité la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, à propos, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu », de quelle Écriture est-ce qu'il parle ? Il parle de l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque, au moment où il écrit ces paroles, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc, il faut qu'on souligne l'importance de l'Ancien Testament, comme on l'appelle erronément, qui est la première alliance, en fait. Dieu n'a jamais rejeté cette ancienne alliance. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes ». Mais dans l'esprit de certains chrétiens, on dirait que l'Ancien Testament s'est dépassé, c'est pas pour nous, à part le psaume 23, à la limite, quand on a un enterrement. Sinon, moi, je veux rien d'autre de l'Ancien Testament, ça m'intéresse pas. Et c'est parfois le genre d'attitude qu'on a. Mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Moi, je passe du temps avec un jeune qui se trouve en Norvège. Le samedi soir, on passe entre 2h et 3h au téléphone pour lire la parole de Dieu. Et on a commencé avec la Genèse et on continue. Et tous les samedis soirs, on lit la parole de Dieu. Hier soir, on a encore passé 3h et puis on prie ensemble. Eh bien, je vous assure que ça fait un bien énorme de lire la parole de Dieu et de la commenter, d'essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, certaines personnes disent que oui, mais la Bible, c'est un vieux livre. Bon, c'est vrai qu'il est vieux, parce que même les textes les plus récents qu'on a, par exemple de l'apôtre Paul, ils ont quand même 2000 ans d'âge, excusez-moi du peu. Hein? On ne peut pas dire que ce soit nouveau, c'est clair. Mais, et qui n'a plus sa place dans notre société contemporaine et moderne. Mais si on y regarde de plus près, on voit que c'est justement le contraire. C'est un livre qui parle de tous les problèmes et les besoins de notre société contemporaine. Je vais vous en donner quelques-uns. 1. Le besoin de paix dans notre monde et au Moyen-Orient. Presque tous les jours, on en parle de ce problème de paix au Moyen-Orient. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Priez pour la paix de Jérusalem. Voilà ce que nous devrions faire si nous sommes inquiets parce qu'il y a un manque de paix au Moyen-Orient. La Bible nous dit « Priez pour la paix de Jérusalem » notamment. Et Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » En priant pour la paix, nous participons à cet effort de procurer la paix au monde, pas en allant comme volontaire sur les champs de bataille. Je ne crois pas qu'on va changer grand-chose, à part peut-être se faire tuer. Mais en priant et disant « Seigneur, que ta paix » viennent au Moyen-Orient ou dans tous les pays où il y a des conflits, à ce moment-là, on est actif, on prend part et Dieu peut agir parce qu'il voit que nous lui demandons d'agir. Et la vraie paix pour laquelle nous prions, ce n'est pas la paix des Nations Unies ou de l'Union Européenne, le plan de paix, le processus de paix, mais c'est la paix que seul le prince de la paix peut apporter. Ne nous faisons pas d'illusions. Ça fait longtemps qu'on nous parle de processus de paix, de plan de paix, etc. Et il n'y a jamais rien qui semble fonctionner. Parce qu'il n'y a qu'un seul plan de paix qui fonctionnera. Et c'est celui que le prince de la paix, Jésus, apportera dans ce monde. Deuxième chose, le besoin de miséricorde et de pardon dans notre société. On voit qu'on vit dans une société qui est de plus en plus froide, hargneuse, désagréable. Les gens sont colériques, ils sont même impolis. Ils répondent d'une façon parfois hallucinante. Colossiens chapitre 3, verset 13 nous dit ceci. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Voilà ce que la Bible nous propose pour ce besoin de miséricorde et de pardon dans notre monde. C'est vrai que quand on voit l'attitude de certaines personnes, parfois, ça fait mal, on est blessé, mais on ne peut rien faire d'autre à part pardonner. Pardonner, parce que c'est ce que Jésus a fait lui-même. Il a été maltraité, mais il a pardonné. Troisième chose, le respect de la terre, l'écologie, hein, ça, c'est devenu la nouvelle religion à laquelle tout le monde se soumet. Il faut faire attention, il faut être bio, il faut être écolo, il faut être ceci, il faut être cela. Je suis d'accord qu'on doit respecter la terre, bien entendu, mais je crois qu'il ne faut pas en faire une religion. ou une obsession. Que dit la Bible ? Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Malheureusement, on n'a pas gardé cette terre. On l'a abusée d'elle, on l'a maltraitée. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, on est tout étonné de voir toute cette pollution dans tous les quatre coins du monde. Ce n'est pas étonnant. C'est parce que justement, on n'a pas fait ce que Dieu nous demandait de faire. Dieu n'a pas dit « laissez tout aller hein, » et « laissez les ronces envahir tous les terrains ». Non, il a dit qu'il faudrait qu'il la cultive et qu'il la garde. Et pour cultiver un champ, même cultiver son jardin, vous savez que ça peut être dur parce qu'il faut constamment arracher les mauvaises herbes, il faut enlever les pierres, il faut entretenir, il faut nettoyer. Donc ça demande une certaine maîtrise de la terre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on abuse de cette terre. Et qu'on doit aussi, comme il est écrit, la garder comme un gardien qui prend soin de cette terre. Et puis, à la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 11, verset 18, il y a un verset intéressant qui dit ceci. « Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Intéressant ce verset. Je ne sais pas si vous aviez jamais fait attention, mais Dieu, il s'intéresse à cette terre qu'il a créée. Et il n'aime pas du tout ceux qui détruisent cette terre. Et il va les juger sévèrement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc on voit que même la Bible nous parle de ce problème d'écologie aujourd'hui. Et ça fait des milliers d'années que la Bible nous parle de cela. Donc la Bible est toujours un livre d'actualité. Et puis, l'importance d'aider les plus faibles. On voit aujourd'hui dans notre société qu'on est souvent sollicité pour aider ceci, pour aider cela. Et ceux qui sont dans le besoin, donc apporter une aide humanitaire. Que nous dit la Bible ? Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez tous ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles et faites preuve de patience envers tous. Ça, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Faites preuve de patience envers tous. On doit pouvoir se supporter les uns les autres, comme on le lisait plus tôt, et puis aussi de pouvoir nous aider, nous entraider les uns les autres. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 27, il est écrit ceci. « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper quoi ? Des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Je sais qu'ici, dans votre église, c'est ce que vous faites. Vous soutenez des orphelins. Et je vous remercie pour ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises où, malheureusement, on fait cela. On ne pense qu'à soi-même, qu'à ses propres besoins, mais on ne pense pas plus loin, à ces gens qui sont souvent isolés, des veuves, des orphelins, qui se retrouvent tout seuls dans ce monde. Voilà ce que dit la Bible à propos de ces gens qui sont dans la souffrance, qui sont abandonnés, qui sont seuls. Ce sont des choses d'actualité. Et pourtant, ces versets nous ont été écrits il y a des milliers d'années. N'est-ce pas qu'elle est d'actualité, cette Bible ? Et puis certaines personnes pensent que la Bible est dépassée dans le domaine scientifique, surtout, attention, parce que ceux qui veulent se faire passer pour des intellectuels, « Oh, la Bible, vous savez, c'est un vieux bouquin complètement dépassé. » Et pourtant, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir que bien avant l'heure, Dieu avait donné des instructions spécifiques qui sont maintenant prouvées et vérifiées par la science. Il y a de nombreuses années, la science niait que l'univers ait eu un commencement. Mais maintenant, la plupart des scientifiques admettent que c'est le cas. C'est notamment une conclusion du CERN à Genève, où travaille mon cousin. J'ai un cousin qui travaille au CERN, donc le Centre d'études et de recherches nucléaires. Et ils sont arrivés à la conclusion que la particule de Dieu, comme on l'appelle, entre guillemets, aurait pu créer le Big Bang. Imaginez-vous. Donc des scientifiques, des hommes qui ont fait des études quand même assez poussées, sont arrivés à cette conclusion que oui, fort probablement, il y a quelque chose qui aurait occasionné, créé ce Big Bang. Et puis, quelle est la forme de la Terre ? Vous savez que pendant l'Antiquité, de nombreuses personnes pensaient que la Terre était plate, carrément. Et puis au 5e siècle avant Jésus-Christ, des scientifiques grecs ont suggéré qu'il s'agissait d'une sphère. Mais bien avant cela, au 8e siècle avant Jésus-Christ, la Bible nous disait par le prophète Ésaïe que c'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre et ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. C'est Ésaïe chapitre 40, verset 22. Et le mot cercle en hébreu est choug, qui peut être traduit par sphère, donc comme un ballon. La Bible nous dit déjà ici, à travers le prophète Ésaïe, que la terre est une sphère, et non pas plate, et non pas autre chose. Mais comme on ne fait pas attention à ce que dit la Bible, on est passé à côté de la plaque. Et donc, il y a eu même Galilée, vous vous souvenez, qui a été malmené, même par l'Église catholique, parce que l'Église catholique refusait de croire que la Terre pourrait être une sphère. Eh bien, qu'est-ce qui garde les planètes suspendues dans l'atmosphère ? C'est aussi une question scientifique à laquelle pas mal de gens se sont arrêtés. Aristote, qui était un scientifique du grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, enseignait que toutes les planètes étaient insérées dans une planète, dans une sphère, allant de la plus grande à la plus petite. Mais bien longtemps auparavant, la Bible nous disait déjà, et ça on trouve dans le livre de Job, chapitre 26 et verset 7, « C'est lui, Dieu, qui déploie le nord sur le vide et qui suspend la terre sur le vide. » C'est extraordinaire de voir que déjà il y a des milliers d'années, dans le livre de Job, la Bible nous dit que c'est Dieu qui déploie le nord sur le vide et qui suspend la terre sur le vide. Et puis dans le domaine de la médecine, je ne sais pas si vous avez jamais bien fait attention en lisant votre Bible, mais bien des fois la Bible nous donne des instructions par rapport à notre santé, ce que nous devrions manger, ce que nous devrions faire, etc., la façon dont nous devrions vivre. Et par exemple, dans la loi de Moïse, il est écrit qu'il faut isoler les lépreux des biens portants afin de ne pas les contaminer. C'est logique pour nous aujourd'hui. Mais ce n'est qu'au Moyen-Âge que les hommes ont appliqué cette règle qu'on trouve dans Lévitique chapitre 13 et 14. Au Moyen-Âge, les chrétiens pensaient que les juifs répandaient le choléra, car eux-mêmes en souffraient beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes gardaient ces règles de purification. Et à cause de cette accusation, des milliers de juifs ont été massacrés. Mais en réalité, les juifs étaient moins affectés par le choléra, car ils observaient tout simplement les règles bibliques. Et puis, se laver après avoir touché un mort. On pourrait croire que c'est logique et qu'on a toujours fait ça. Eh bien, pas du tout. Ce n'est qu'au 19e siècle, il y a à peine deux siècles, que les médecins ont réalisé qu'en s'occupant de malades vivants, après avoir touché des morts, sans s'être d'abord lavé les mains, qu'ils leur transmettaient des maladies. Et cela a causé la mort de nombreuses personnes. Pourtant, des milliers d'années plus tôt, la Bible avait déjà averti, dans Nombre, chapitre 19, versets 11 à 19, elle avait averti qu'il fallait se laver les mains et se purifier après avoir touché un mort. De nouveau, on voit que notre humanité a souffert parce qu'elle n'a pas suivi ces règles de base que la Bible nous donne. Ne me dites pas que la Bible n'est pas un livre d'actualité, c'est juste le contraire. Il est à l'avant-garde de nos découvertes scientifiques. Et puis se débarrasser des excréments. Vous savez qu'encore aujourd'hui, chaque année, plus d'un demi-million d'enfants meurent de diarrhée due en grande partie au fait qui sont exposés à des excréments humains dont on ne s'est pas débarrassé de façon hygiénique. Et pourtant, la Bible avait déjà donné des instructions claires à ce sujet. Dans le Deutéronome, chapitre 23 et verset 13, tu auras un endroit prévu à l'extérieur du camp, et c'est là, dehors, que tu iras pour tes besoins. Mais on n'a même pas respecté cette règle de base. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des centaines et des milliers de gens qui sont contaminés et qui meurent de cette contamination. La circoncision. Vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des hommes sont circoncis, encore aujourd'hui, parce qu'ils savent que c'est plus hygiénique, c'est mieux. Et aussi pour la femme, parce que sinon, si on n'est pas circoncis, on peut transmettre des maladies plus facilement. Et puis, à quel moment est-ce qu'il faudrait être circoncis? La Bible est très claire là-dessus. Dans Lévitique chapitre 12, verset 3, il est écrit que c'est le huitième jour que cette circoncision doit avoir lieu. Eh bien, on a récemment découvert que c'est en fait le jour où la capacité de coagulation du sang est la plus élevée et donc les risques d'hémorragie sont les moindres. N'est-ce pas extraordinaire? Il a fallu des milliers d'années aux hommes, aux scientifiques, aux médecins, pour découvrir que ce que la Bible dit est logique, que ça tient bien la route. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît parfaitement. C'est lui qui nous a créés. Quand vous pensez que nous sommes tous faits pratiquement de la même façon, deux oreilles, deux yeux, un nez, une bouche, etc. C'est miraculeux. Et ça se reproduit à des milliards d'exemplaires. Et c'est Dieu qui nous a créés de cette façon-là. Il sait exactement de quoi nous sommes faits, avec deux poumons, deux reins, un foie, etc. Ce n'est pas par hasard que les choses sont comme ça. Eh bien, il y a aussi un lien entre la santé mentale et la santé physique. Vous savez que c'est prouvé maintenant, depuis peu, que notre santé mentale va aussi jouer sur notre santé physique. Vous savez par exemple que les gens qui sont atteints du cancer, s'ils sont toujours dépressifs, négatifs, ça va aller seulement en empirant. C'est connu. Eh bien, que dit la Bible là-dessus? Le roi Salomon, imaginez-vous, il y a combien de milliers d'années? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. N'est-ce pas extraordinaire? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbes, chapitre 17, verset 22. Eh bien, dans le monde chrétien, nous voyons malheureusement de plus en plus de faux docteurs, de faux enseignants, des faux prophètes qui se lèvent, et tant de gens les suivent aveuglément, parce que ça leur fait plaisir, ça chatouille leurs sentiments, leurs émotions. On tombe dans le sensationnalisme. La Bible, pourtant, nous a avertis aussi à ce propos. Matthieu 24, 24, c'est Jésus qui parle. Et il dit ceci, « De prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges, des miracles, des signes. » C'est ce que Jésus nous dit, ce n'est pas moi qui le dis. Au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Matthieu 24, 24. Il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de charlatans, même, qui viennent au nom de Jésus pour faire des soi-disant miracles. Ce verset, ce passage du jugement dans Matthieu chapitre 7, si je ne me trompe, à la fin des temps, certains vont venir devant le Seigneur et ils vont lui dire « Ah, tu sais Seigneur, en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles? En ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades? En ton nom, n'avons-nous pas prophétisé, etc. etc. » Et qu'est-ce qu'il va leur répondre? « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Connaître Dieu, c'est ça notre priorité, c'est pas faire des miracles. Connaître Dieu, savoir qui il est, ses pensées, sa façon de voir le monde, sa façon de voir ma vie, sa façon de voir la société dans laquelle je vis, c'est ça que je devrais rechercher de tout mon cœur. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est ça qui devrait être ma priorité. Connaître Dieu. Est-ce que je fais des efforts pour connaître Dieu, notamment à travers sa parole, ou est-ce que je me base uniquement sur mes opinions, sur ce que j'ai entendu, sur ce qu'on m'a raconté? Non. Vous devez faire l'effort de le connaître, lui. Que nous puissions le connaître intimement. Et le connaître, ce verbe dans la Bible, cela veut dire comme un mari connaît sa femme, c'est-à-dire qu'il a des relations avec sa femme. Comme il est écrit, Adam connut Ève, et puis ils ont eu des enfants. Nous sommes l'épouse de Christ, d'accord? Et lui, il est l'époux. Et la chose naturelle, c'est qu'on ait des relations intimes et qu'on puisse vraiment porter du fruit en faisant des disciples, justement. Donc, c'est ça qui devrait être notre priorité, c'est de le connaître, lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi dans Jean, chapitre 17, si je ne me trompe. « Voici la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le Père, et ton Fils, et le Fils Jésus, que tu as envoyé dans ce monde. » Vous connaissez ce verset. « Voici la vie éternelle. » C'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas de faire des choses qui nous semblent correctes, mais c'est de le connaître, de connaître Dieu et de connaître Jésus. Parce que sinon, mes amis, on va arriver là et Jésus risque de nous dire « Mais qui es-tu ? Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais entendu. On ne s'est jamais parlé. Est-ce que tu t'es adressé à moi ? Tu m'as parlé ? Est-ce que tu as prié ? Je ne connais pas. » Quelle catastrophe, mes amis. Imaginez-vous, en pensant que simplement parce qu'on vient à l'église, ça suffisait. Eh bien non, je ne t'ai jamais connu. Et c'est ça qui est grave. C'est quelque chose de très sérieux qu'on doit prendre à cœur. C'est d'avoir ce désir de le connaître, lui. Dieu le Père et Jésus son Fils. Soyons donc vigilants et lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 26, Jésus dit aussi, « Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. » Pour qu'on soit conscient du fait que ce n'est pas simplement écouter la parole que nous devons faire, mais c'est la mettre en pratique. C'est moins facile, ça. Hein? Est-ce qu'elle est dit commandement? C'est déjà pas évident. Hein? Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, etc., etc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Wow! Qui peut dire qu'il aime Dieu d'une façon pareille? Il faut être honnête. On est loin du compte et on a encore beaucoup de chemin à faire. Soyons donc vigilants et lisons la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours que Dieu nous donne. Car comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Dans ce monde de ténèbres, on a besoin d'être éclairé. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, pour ta parole, en effet, qu'elle soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans ce monde de ténèbres, Seigneur, sans toi, sans ta parole, que serions-nous? Où irions-nous? Nous avons besoin de toi. Tu es la lumière du monde et tu nous appelles à être aussi la lumière dans ce monde. Merci, Seigneur. Merci de continuer à nous garder en toi, de nous protéger des attaques de l'ennemi. Et merci de bénir chacun ici présent ce matin. Que tu puisses nous renouveler, nous encourager et nous permettre d'apprendre à mieux te connaître et à nous rapprocher de toi. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.